semaine d'actualité. Christophe Paget.
Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour passer en revue l'actualité de ces derniers jours. D'abord dans le monde, puis on se concentrera sur la France et l'Afrique. Bref, de Beyrouth à Bujumbura en passant par Paris et Phnom Penh, c'est une semaine d'actu. Une émission à retrouver bien sûr sur notre site internet www.rfi.fr. On peut aussi la podcaster, soyons résolument modernes. Et c'est avec Laurence Louer que nous allons passer en revue toute cette actualité. Laurence Louer, chercheuse aux séries, professeure associée à Sciences Po et surtout auteure du livre « Sunnites et chiites, histoire politique d'une discorde ». C'est le sous-titre et c'est au seuil. Laurence Louer, bonjour.
Bonjour.
On va donc parler avec vous de ces deux courants de l'islam dont les différences sont censées expliquer de nombreux conflits au Proche et au Moyen-Orient, mais qui, vous le dites dès le début de votre livre, sont activés ou désactivés en fonction du contexte politique. D'abord, expliquez-nous, rappelez-nous, quelle est la différence fondamentale entre l'islam sunnite et l'islam chiite. En fait, tout se joue sur la succession du prophète Mahomet.
Oui, alors bon, déjà il faut dire qu'aujourd'hui les sunnites sont très très largement majoritaires, hein, probablement autour de 85 à 90% des musulmans, et les chiites donc très minoritaires. Au départ, en effet, le problème, c'est un différend, une querelle quant à la succession du prophète Mahomet, puisque les sunnites pensaient que Mahomet n'avait pas désigné de successeur et que donc c'était à ses compagnons de s'entendre entre eux pour désigner celui qui devait lui succéder. Ceux qui sont devenus les chiites, au contraire, pensaient qu'il avait désigné son cousin et gendre, Ali ibn Abi Talib, comme successeur et que la succession par la suite devait se passer uniquement dans la lignée de Ali et Fatima, donc Ali son cousin et Fatima la fille de Mahomet.
Donc création de ces deux courants, mais dans votre livre il y a une date qui est fondamentale, c'est lorsqu'au XVIe siècle, on fait un bond dans le temps, hein, les Safavides, la dynastie qui à l'époque occupait ce qui est aujourd'hui l'Iran, les Safavides ont déclaré le chiisme religion d'État. Ce qui a contribué, vous l'expliquez dans votre livre, à rendre plus claire une distinction entre chiisme et sunnisme qui n'était pas forcément évidente pour les populations.
Tout à fait, parce que donc ce que vous comprenez, c'est qu'au fond, les chiites étaient partisans de la famille du prophète. Hein. Ils s'appellent souvent comme ça, les partisans de la famille de Mahomet. Mais en fait, ils n'ont jamais été au pouvoir. Le dernier calife a été Ali ibn Abi Talib, donc c'est considéré comme le premier imam par les chiites. Il a régné très peu de temps, à peine 5 ans. Et ensuite, ses descendants, ses fils, ses petits-fils n'ont jamais effectivement régné. Donc avant 1501, donc avant que les Safavides arrivent au pouvoir en Iran, le chiisme était très largement une religion communautaire. Également, la frontière entre sunnisme et chiisme n'était pas du tout claire, puisque la dévotion à l'égard de la famille du prophète était en fait très très répandue dans l'islam de manière générale, et l'est toujours très largement. Et donc, il a fallu vraiment que les Safavides arrivent et déclarent, au fond, le chiisme comme leur religion d'État et donnent au chiisme le statut de religion officielle, c'est-à-dire d'idéologie de légitimation d'un régime politique, ce que le sunnisme était déjà depuis très longtemps, puisque c'était la religion officielle des différents États musulmans qui se sont succédés après Mahomet. Et donc là, il y a vraiment un tournant, puisque également, le chiisme en arrive à incarner, si vous voulez, la religion nationale iranienne, et être très très intimement lié à la construction étatique iranienne et à l'identité nationale iranienne.
Et donc du coup, en fait, ils se sont construits en miroir des Ottomans, qui eux étaient sunnites. Pour eux, être chiite, c'était s'affirmer comme une dynastie, une population bien différente des Ottomans.
Tout à fait. Alors l'Empire Ottoman et l'Empire Safavide se sont vraiment construits en miroir, c'est-à-dire qu'ils étaient rivaux. Et ce que les Safavides voulaient faire au fond, c'était élever le chiisme, si vous voulez, au rang de religion officielle comme l'était le sunnisme déjà, et comme l'était le sunnisme notamment pour les Ottomans qui se présentaient comme les défenseurs du vrai islam. Et donc on voit les Safavides de manière très intéressante, par exemple, construire un clergé chiite à part entière, en demandant dans un premier temps à des savants religieux chiites arabes venant du Liban, puis venant de ce qui est aujourd'hui le Bahreïn et l'Arabie Saoudite, venir dire ce qu'était le chiisme. Parce que ce qu'était le chiisme, ce n'était pas très clair pour les Safavides eux-mêmes, d'ailleurs.
Donc il y a une construction du chiisme.
Tout à fait. Une construction du chiisme dans une relation très étroite entre les souverains Safavides et puis un corps de savants religieux qui vont être chargés de clarifier aux yeux de la population ce qu'est le chiisme et ce qu'est la frontière entre sunnisme et chiisme. À l'époque, en Iran, les historiens disent souvent que la population était majoritairement sunnite, mais en effet, en fait, elle pratiquait un islam qui n'avaient pas conscience d'être spécifiquement sunnites, dans lequel, encore une fois, la dévotion à l'égard de la famille du prophète était très très répandue.
Alors tout ça s'est traduit, la construction de ces deux ensembles, par une série de guerres entre Safavides chiites et Ottomans sunnites. Les Ottomans contrôlaient quel territoire à l'époque ?
Alors, ce qui est déterminant pour cette rivalité, c'est que, au fond, les Safavides apparaissent alors que les Ottomans ont conquis la plupart des territoires arabes. Et donc, au fond, les territoires centraux dans l'imaginaire pour l'islam, si vous voulez, puisque l'islam est né dans la péninsule arabique, Dieu a parlé aux Arabes en arabe, et à partir de ce moment-là, ils insistent beaucoup pour se présenter comme calife, et non pas seulement sultan, c'est-à-dire sultan, celui qui a le pouvoir de fait, mais calife, c'est-à-dire ceux qui défendent l'islam, qui gouvernent au nom de l'islam.
Laurence Werner, nous allons commencer notre retour sur l'actualité de la semaine écoulée avec d'abord la réaction du monde arabe après la reconnaissance par le président américain la semaine dernière de Jérusalem comme capitale d'Israël. À Beyrouth, le chef du puissant mouvement chiite Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait appelé à une manifestation lundi dans la périphérie sud de Beyrouth, le fief du parti. À Beyrouth, Laure Stéphan.
Mort à l'Amérique, mort à Israël, des milliers de manifestants ont scandé ces slogans dans la banlieue sud de Beyrouth hier. Au milieu des fidèles du Hezbollah, de nombreux réfugiés palestiniens du Liban étaient venus protester contre la décision de Donald Trump, comme Yasmine.
Je suis là pour Jérusalem, la capitale de la Palestine. Nul ne peut nous l'enlever. Seul Hassan Nasrallah nous soutient. Je me mobiliserai jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
La décision américaine est vécue comme une injustice de plus subi par la région. Haj Abou Hassan, un manifestant.
Les États-Unis n'ont aucune autorité chez nous. Ce que dit leur président, c'est pour les gens là-bas, pour les Américains. Mais l'Amérique dit ce qu'elle veut, on ne suit pas ça.
Pour de nombreux manifestants comme Hussein, partisan du Hezbollah, les Arabes doivent se soulever.
Manifester ne suffit pas. La diplomatie est vaine. Seule l'intifada et la résistance peuvent libérer Jérusalem. Israël ne comprend que le langage de la force des armes de la résistance, et nous l'avons déjà vu au Liban.
Loin de son intervention controversée en Syrie, le Hezbollah s'était rendu très populaire parmi les Arabes en combattant Israël. C'est avec cette image que le parti veut renouer aujourd'hui.
Laurence Werner, une réaction sur cette question de Jérusalem et sur le Liban ?
Oui, alors cette manifestation, elle est vraiment symptomatique du fait que pour le Hezbollah, la légitimité de lutter contre Israël pour la cause palestinienne, elle est tout à fait centrale et elle reste centrale. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment au départ, le Hezbollah est constitué en 1982 comme une milice qui doit résister à l'invasion israélienne du Sud-Liban. Et le Hezbollah a toujours prétendu ne pas avoir participé stricto sensu à la guerre civile, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, mais donc se présente vraiment comme le seul, on va dire, segment de la société libanaise qui a résisté effectivement contre Israël à un moment où l'armée libanaise avait perdu toute capacité à le faire, si vous voulez. Et donc c'est vraiment central dans la construction de son identité, de sa légitimité politique sur la scène libanaise intérieure, mais aussi à l'extérieur du Liban et notamment auprès des populations sunnites.
Dans votre livre, vous dites que c'est la guerre civile entre 1975 et 1990 au Liban qui a fait de la relation entre sunnites et chiites un clivage structurant du champ politique. C'était pas le cas avant ?
Non, parce que à la base de la construction nationale libanaise, c'est vraiment l'équation islamo-chrétienne qui est centrale. C'est-à-dire vraiment l'équilibre entre les différentes communautés chrétiennes et les différentes communautés musulmanes. Et donc, c'est au fond, à la faveur de la guerre civile, que les chiites, qui étaient entre-temps devenus la communauté majoritaire sur le plan démographique, s'affirment sur le plan politique. En effet, dans la formule libanaise initiale, cette formule consistait dans un pacte entre la communauté sunnite et puis la communauté maronite, chrétienne maronite, qui étaient les deux communautés les plus nombreuses et les plus importantes aussi sur le plan politique. Les chiites qui arrivaient en troisième avaient été marginalisés dans les institutions, donc ils avaient relativement peu de pouvoir institutionnel et grâce à la guerre, on va dire, ils deviennent un acteur central de l'équation politique et ils marginalisent surtout, en fait, les sunnites, qui est une communauté qui a énormément souffert de la guerre, qui est sortie de la guerre sans leadership communautaire très clair et unifié. Et au fond, le premier ministre assassiné, Rafik Hariri, est arrivé là pour combler un vide dans les années 1990.
Oui, les sunnites se sont réunis autour de sa personne.
Tout à fait. Donc, c'est la première fois qu'au fond, une personnalité faisait à ce point consensus dans la communauté. Mais après sa mort, en fait, son fils n'a pas vraiment réussi à rassembler autant que l'avait pu le faire son père.
7 jours dans le monde.
On se dirige maintenant vers le Cambodge, puisqu'après les États-Unis, l'Union européenne suspend son assistance à l'organisation des législatives dans le pays qui sont prévues l'an prochain. La représentation diplomatique européenne à Phnom Penh a expliqué que l'exclusion arbitraire par le gouvernement du principal parti d'opposition rendait le processus électoral illégitime. Yelena Tomic.
La commission électorale cambodgienne ne bénéficiera plus de l'aide financière de l'Union européenne. Avec le Japon, l'Union européenne figurait parmi les plus gros contributeurs de cette entité en théorie indépendante. En cause, la dissolution le mois dernier par la Cour suprême du principal parti d'opposition, le Parti du Sauvetage National du Cambodge. Bruxelles a emboîté le pas à Washington, qui avait, dès la mi-novembre, suspendu toute aide à l'organisation des élections, considérant qu'elles ne seront pas légitimes. Début septembre déjà, le chef du CNRP, Kem Sokha, avait été emprisonné et inculpé pour trahison et espionnage en faveur des États-Unis. La commission électorale cambodgienne a répondu que les élections se tiendraient comme prévu, même sans aide ni observateurs internationaux. En faisant place nette, l'inamovible Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 32 ans, sera probablement reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Un glissement vers une dictature qui ne semble pourtant pas inquiéter le Japon, la Chine, la Corée du Sud et la Russie, des pays qui n'ont pas retiré leur assistance à l'organisation du prochain scrutin.
Yelena Tomic. Aux États-Unis, dans l'Alabama, le candidat démocrate au Sénat, Doug Jones, a réussi mardi à se faire élire dans ce bastion conservateur. Il a battu le fameux Roy Moore, le candidat que le président américain Donald Trump soutenait, malgré des accusations d'attouchement sur mineurs. Et cette défaite prive les républicains au pouvoir d'un précieux siège à la Chambre haute du Congrès. Carlota Morteo.
Les républicains ne sont désormais majoritaires que d'une seule voix au Sénat. De quoi réjouir les démocrates qui pourront ainsi jouer sur les divisions au sein du parti républicain pour entraver l'agenda de Donald Trump. Peut-être pas sur la réforme fiscale qui, sauf retard, devrait être votée en décembre, c'est-à-dire avant l'investiture de Doug Jones en janvier, mais probablement la Maison-Blanche aura plus de mal à faire passer au Sénat une réforme de l'immigration trop radicale ou à confirmer le budget pour le mur à la frontière mexicaine ou encore à faire valider la nomination de juges trop conservateurs à la tête des tribunaux fédéraux. La victoire du démocrate Doug Jones en Alabama est aussi intéressante pour ce qu'elle dit sur les stratégies de campagne des deux partis. Non, les conservateurs modérés n'ont pas pris à la légère les accusations d'attouchement sexuel de Roy Moore. Ils ont été nombreux à se détourner du candidat républicain à cause de son comportement. Et oui, les démocrates gagnent quand ils réussissent à mobiliser la communauté afro-américaine en choisissant un candidat qui, au-delà des beaux discours, a fait ses preuves. Doug Jones était le procureur qui avait fait condamner des membres du Ku Klux Klan pour un attentat dans une église noire, alors que l'affaire avait été classée depuis près de 40 ans.
Direction maintenant le Yémen, où la guerre continue. Les raids aériens de la coalition sous commandement saoudien ont fait au moins 12 morts et 80 blessés mercredi dans un camp de prisonniers tenu par les rebelles houthis dans la capitale Sanaa. Des chiffres donnés par la chaîne de télévision Al-Masira, contrôlée par ces insurgés. Toufik Ben Aïchouch.
Selon des témoins, les bombardements ont commencé dans la nuit à 1h du matin. La première frappe aérienne a touché une aile du camp où étaient logés les prisonniers. Un second raid a touché ensuite le camp de plein fouet et un troisième détruira un mur d'enceinte un peu plus tard. Deux bâtiments ont été également éventrés. Autant dire que personne n'a pu fuir ou réellement s'abriter. Des rebelles ont été vus ensuite en train de transporter des corps retirés des décombres. La veille, déjà une trentaine de rebelles aussi avaient été tués dans des raids aérien de la coalition sous commandement saoudien qui avait visé un camp d'entraînement dans la province de Hadjar, au nord-ouest du pays. La guerre au Yémen a déjà fait plus de 8750 morts et 50600 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé, une catastrophe qui s'ajoute à une crise humanitaire sans précédent. Près de 8,5 millions de personnes sont menacées directement de famine selon le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Yémen, Jamie McGoldrick.
Laurence Ware, une réaction sur ce bombardement de camps de prisonniers par les Saoudiens et puis sur plus largement la situation au Yémen.
Oui, alors le Yémen, ça a été dit, hein, c'est vraiment une catastrophe humanitaire, c'est un conflit très très grave et surtout pour les Saoudiens, c'est extrêmement compliqué à gérer. D'abord, ils n'arrivent pas à gagner cette guerre leur coûte énormément d'argent, elle est très impopulaire à une période, à un moment où ils sont eux-mêmes
sur le plan intérieur, en train de faire des réformes qui sont parfois douloureusement ressenties par la population, des réformes d'austérité, des subventions, baisse des salaires. Et au fond, le prince héritier espérait gagner rapidement cette guerre, il n'y arrive pas. Et là, l'assassinat la semaine dernière de Ali Abdallah Saleh, qui était l'ancien président du Yémen, qui avait été un acteur central de la réunification du Yémen dans les années 90, qui s'était allié avec les rebelles Houthis, montre en fait les limites de cette stratégie saoudienne, puisque ça faisait plusieurs semaines que, au fond, les Saoudiens essayaient de briser cette alliance entre l'ancien président et puis les Houthis, et au fond, tout indique qu'il n'y avait pas de plan pour après, et qu'ils n'ont pas été capables, notamment, de protéger Ali Abdallah Saleh une fois qu'il a effectivement rompu son alliance avec les Houthis, et donc, au fond, sa mort ne permet pas de s'acheminer vers une solution.
Alors, vous parlez du Yémen dans votre livre, il y a tout un chapitre. Le pays est à majorité sunnite, mais vous parlez surtout du zaïdisme. Les rebelles houthis dont on vient de parler sont zaïdites. Qu'est-ce que le zaïdisme ?
Alors, le zaïdisme, c'est un courant de l'islam qui est minoritaire et qui, historiquement, est apparenté au chiisme. Mais on va dire que les zaïdites ne reconnaissent pas les mêmes imams que les chiites, duodécima. Ce qu'on appelle chiite duodécima, c'est l'islam chiite majoritaire qui reconnaît une lignée de 12 imams. Les zaïdites, quant à eux, n'ont que 5 imams en commun avec les chiites duodécima, et ils pensent que la lignée des imams a continué jusqu'au 20e siècle, jusqu'en 1962. Les zaïdites ont établi un imamat zaïdite au 8e siècle au nord Yémen, dans la ville de Sarada, qui existe toujours, qui a été vraiment l'épicentre du conflit yéménite depuis 2004, donc c'est-à-dire un imamat, un état dirigé par un imam, c'est-à-dire quelqu'un qui était à la fois un savant religieux, mais aussi un chef politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 18e siècle, sur le plan des doctrines et de l'identité, le zaïdisme s'est rapproché en fait du sunnisme, pour des raisons essentiellement politiques, parce que les imams avaient souffert d'un déficit de légitimité, et donc avaient besoin, si vous voulez, de brouiller les frontières entre sunnisme et zaïdisme. Et il est important de rappeler ça, parce qu'aujourd'hui, on a tendance peut-être à avoir une lecture beaucoup trop...
Sunnite-chiite,
exactement, du conflit yéménite, en pensant qu'au fond, c'est là le nœud du problème. Or, pas du tout, sur le plan des identités religieuses, les frontières sont assez brouillées entre les sunnites et les zaïdites au Yémen. Et au fond, les Iraniens, jusqu'à assez récemment, étaient peu impliqués auprès des zaïdites au Yémen. Et c'est seulement au milieu des années 2000, quand le conflit entre les rebelles Houthis, donc ils sont zaïdites, et surtout qui incarnent l'ancienne élite de l'imamat zaïdite, qui a été marginalisée après les années 60 et l'établissement des régimes républicains au nord du Yémen. Eh bien, les Houthis, au départ, c'est quand même une tentative de la part d'une partie de ces anciennes élites pour non pas reconquérir le pouvoir, mais reconquérir une position politique importante. Et c'est l'absence, on va dire, de compromis de la part du gouvernement central yéménite qui a amené à une première guerre en 2004, qui a précédé une série de guerres qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que là, pour le coup, on a un exemple de ce clivage chiite-sunnite qu'on réactive de manière politique pour l'occasion ?
Oui, tout à fait. Puis c'est surtout un exemple du fait que des acteurs extrêmement puissants qui contrôlent notamment des médias très influents dans la région ont une capacité à imposer un schéma d'interprétation sur un conflit. Ce conflit, au départ, il a vraiment ses ressorts sont des ressorts intérieurs yéménites, extrêmement complexes d'ailleurs. Et donc les Saoudiens et les Iraniens ont imposer de l'extérieur un schéma de lecture confessionnel, se sont eux-mêmes alliés avec différentes parties du conflit. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Houthis contribuent à re-chiitiser le zaïdisme, notamment en imitant énormément le Hezbollah dans leurs slogans, dans leurs symboles, dans leur mode d'organisation aussi, en développant des liens intenses avec les Iraniens. Et donc, au fond, c'est par le conflit et par l'imposition par des acteurs extérieurs d'un schéma de lecture confessionnel que le zaïdisme, ou une partie du zaïdisme en tout cas, peut-être pourrait commencer à se re-chiitiser et à redécouvrir au fond ses racines chiites.
Laurence Weir, on marque une pause, le temps d'écouter les dernières nouvelles du monde sur RFI. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite d'une semaine d'actualité. Une semaine d'actualité avec les reportages de la rédaction de RFI et notre invité Laurence Louer, auteur du livre « Sunnites et chiites, histoire politique d'une discorde » aux éditions du Seuil.
Une semaine d'actualité, Christophe Paget.
Laurence Louer, il y a eu des guerres mais aussi des convergences entre sunnisme et chiisme, par exemple à la fin du 19e siècle avec le mouvement Nada, la Renaissance. Pour quelles raisons ces convergences?
Alors, si on veut parler de la Nada, ce mouvement de la Renaissance qui commence à la fin du 19e siècle, au fond, la convergence, elle se passe sur des bases politiques, puisque l'idée de ceux qu'on appelle les réformistes musulmans, parmi lesquels il y avait un chiite, Jamal el-Din el-Afrani, c'était qu'il fallait que les musulmans s'unissent au-delà de leurs divergences théologiques et doctrinales pour lutter contre l'expansion impériale européenne. Et que, au fond, cela nécessitait qu'on s'occupe pas trop des détails et qu'on pense à ce qui rassemblait les musulmans, puis qu'on mette un petit peu de côté ceux qui pouvaient les opposer. Ce qui est assez intéressant dans ce mouvement, c'est que d'ores et déjà, il montre les ambiguïtés des périodes de rapprochement entre sunnites et chiites, puisque donc la grande figure centrale et initiatrice du mouvement du réformisme musulman, Jamal el-Din el-Afrani, c'était un Iranien chiite qui avait été formé dans les séminaires religieux de la ville de Najaf en Irak, donc avait une formation tout à fait classique.
Mais il restait assez discret là-dessus.
Plus encore, toute sa vie, il s'est fait passer pour un sunnite, pour ne pas justement miner sa légitimité personnelle, si vous voulez, et sa capacité à parler au nom de l'islam en général.
Et sur quoi aboutit cette renaissance?
Alors cette renaissance, ça a été important sur le plan politique, hein. Et puis c'est un mouvement qui donne lieu aussi à l'islamisme contemporain, et notamment le courant des frères musulmans est vraiment issu de ce mouvement. C'est-à-dire c'est un mouvement qui voulait à la concilier les apports de la modernité occidentale et l'identité musulmane, hein. Donc concilier la modernité avec la vérité, on va dire intrinsèque des musulmans, qui devaient rester attachés à leur héritage, puis qui devaient aussi redécouvrir les racines profondes de leur héritage, c'est-à-dire revenir à l'islam des premiers temps qui avait été, selon eux, déformé par des générations d'ouléma, notamment, qui en avaient déformé le sens initial.
Vous parlez de l'islamisme. Pour l'islamisme sunnite, c'est la question palestinienne qui l'a fait essaimer à travers les frères musulmans.
Oui, alors ça, c'est vrai que les frères musulmans sont nés en Égypte en 1928 et ils ont assez rapidement, dès les années 1930, essaimé en Palestine. Et c'est à travers, au fond, des brigades, notamment de frères musulmans qui se sont engagés dans le premier conflit israélo-arabe de 47-48, que des cellules des frères musulmans se sont développées, notamment en Irak et en Palestine.
Et pour ce qui est de l'islamisme chiite?
Alors l'islamisme chiite en fait a des racines communes avec les frères musulmans, hein, c'est ce réformisme musulman du 19e siècle. C'est aussi la centralité qui est accordée à la question de l'État islamique, hein. Pour les islamistes, aussi bien les sunnites que les chiites, les problèmes des musulmans seront résolus quand ils auront mis en place un État islamique. Alors ils disent pas vraiment ce que c'est que cet État islamique, hein. On comprend que c'est un État qui va respecter la loi de Dieu, mais il y a assez peu de détails qui sont donnés. La grande différence entre les islamistes sunnites et les chiites, c'est qu'au fond, dans l'islam sunnite, il y a une forme de rupture avec le clergé sunnite traditionnel, avec les savants religieux qui sont stigmatisés, qui sont rendus responsables de cette déformation de l'islam. Dans l'islamisme chiite, ce sont les clercs qui sont les grands penseurs, les idéologues, mais aussi les dirigeants des mouvements islamistes chiites. Donc en fait, on voit qu'il y a une grande continuité. Voilà, ce sont les mêmes grandes dynasties de clercs, puisque dans le monde chiite, l'autorité religieuse se transmet au sein de grandes familles qui font profession, hein, cléricale en fait. Et on voit, Khomeini est issu d'une de ces familles, Mohamed Hossein Fadlallah, qu'on a longtemps décrit à tort comme le père spirituel du Hezbollah libanais, également. Donc, on voit pas de rupture dans l'islamisme chiite, en fait, entre le clergé traditionnel et puis les islamistes.
On continue notre voyage dans l'actualité de la semaine avec l'Afrique, mais d'abord la France. Laurent Wauquiez a été élu dimanche dernier à la tête du parti Les Républicains avec 75% des voix, mais coup dur. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a rapidement annoncé qu'il quittait son parti, une réponse à la campagne très à droite menée par Wauquiez. Sera-t-il suivi par d'autres poids lourds? Anne Souhaitement.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec le départ fracassant de Xavier Bertrand hier soir, c'est une nouvelle étape de la recomposition de la droite qui a débuté. Dans l'équipe de Laurent Wauquiez, on accuse le coup, on parle de déshonneur, de sortie par la petite porte, même si on s'y attendait depuis des mois, démine Gilles Platré, qui parle même d'un non-événement. Le maire de Chalon-sur-Saône a soutenu Laurent Wauquiez pendant toute la campagne. La grande question, c'est celle d'un possible effet domino. Valérie Pécresse, Alain Juppé, Christian Estrosi, Jean-Pierre Raffarin pourraient-ils à leur tour quitter le parti ? Eux aussi ont dénoncé jusqu'au tout dernier jour de campagne une dérive droitière de celui qui est désormais à la tête de leur parti. Pour l'instant, c'est silence radio. Aucun n'a réagi au départ de Xavier Bertrand, dans l'attente peut-être de signaux que pourrait envoyer Laurent Wauquiez en leur réservant une place dans les futures instances du parti. Maëlle de Calan, candidat malheureux de cette aile modérée, a d'ailleurs été reçu ce matin par Laurent Wauquiez. À sa sortie, il a confirmé qu'il comptait peser, pour l'instant, au sein du parti.
Ce jeudi, le Premier ministre français Édouard Philippe lançait la deuxième conférence des territoires dans la préfecture du Lot, avec pas moins de 13 ministres. Devant cette instance de dialogue entre l'État et les collectivités locales, le chef du gouvernement a annoncé un plan de 5 milliards d'euros sur 5 ans pour redynamiser les centres-villes. À Cahors, les précisions de Julien Chavanne.
Pour Édouard Philippe, revitaliser les centres-villes est d'abord un enjeu politique.
Notre pays est confronté depuis des années à des vitrines fermées, des immeubles dégradés, des rues délaissées qui nourrissent un sentiment d'abandon aux lourdes conséquences.
Son plan se découpe en deux. D'abord, faire revenir les habitants en rendant les centres plus confortables. 5 milliards d'euros seront mobilisés en grande partie sous forme de prêts pour réhabiliter des logements. Deuxième champ d'action, faciliter le retour des commerces par un allègement des procédures. Et le Premier ministre ira sur le terrain. Il a prévu un grand tour de la France rurale au premier semestre prochain.
Afin d'écrire ensemble un autre récit des territoires, et que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne parle plus de territoires périphériques, mais de territoires agiles, de territoires connectés, de territoires solidaires.
Et toujours pour s'adresser à cette France des oubliés, Édouard Philippe veut aussi s'occuper de la fracture numérique. Le gouvernement s'est engagé à mettre toute la France en très haut débit d'ici à 2022.
Julien Chavanne, une soixantaine de chefs d'État étaient réunis mardi à Paris pour le One Planet Summit, un rendez-vous consacré au climat. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, beaucoup d'annonces ont été faites par des acteurs économiques et financiers. Pierre Firsion s'est concentré sur celles qui concernent les pays africains.
L'engagement le plus significatif est celui de la Commission européenne et de la Fondation Bill Gates, qui entendent au total consacrer 525 millions d'euros à la recherche en agriculture. La Fondation américaine souhaitant aider les agriculteurs les plus pauvres, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique. Autre initiative à destination du continent, la création d'une plateforme de financement de 100 projets eau et climat, et ce sur 5 ans. L'Agence française de développement a de son côté annoncé la signature d'accords avec Maurice, les Comores, le Niger et la Tunisie. Objectif, aider ces pays à s'adapter aux impacts des dérèglements. L'AFD déboursera pour l'ensemble de ces accords 30 millions d'euros sur 4 ans. Des engagements français que l'ONG Oxfam juge au final insuffisants. Armel Lecomte est responsable des questions climat et énergie au sein de la branche française de l'ONG.
Le président français a souligné l'urgence d'agir et pourtant il n'a pas apporté de réponse de la part de la France pour augmenter la part des financements français qui vont à l'adaptation au changement climatique qui est pourtant crucial, notamment dans les pays africains. Il y a eu des annonces plus positives d'autres acteurs, mais c'est quand même la déception qui domine.
L'ONG Oxfam regrette notamment que l'Agence française de développement n'ait pas suivi l'exemple de la Banque mondiale. Cette dernière a annoncé hier qu'elle arrêterait après 2019 de financer l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz. Certainement l'une des annonces les plus marquantes de ce sommet.
Avec nous toujours Laurence Louer, auteur du livre « Sunnite et chiite, histoire politique d'une discorde ». La grande ligne de fracture chiite-sunnite, c'est entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Est-ce que chacun de ces pays gouverne selon les préceptes chiite pour l'un, sunnite pour l'autre ?
En tout cas, il l'affirme. Alors, pour le cas iranien, c'est très clair, puisque donc l'Iran, depuis 1979, est sous un régime dit de république islamique. Donc, en fait, les Iraniens ont réalisé cette utopie, grande utopie de l'État islamique, et l'utopie de tous les islamistes. Et ils ont remis l'essentiel du pouvoir institutionnel au sein d'un clerc de haut rang, dont la place est relativement bien stabilisée dans le clergé chiite. Il s'agit d'un marja, dont les avis doivent être suivis
suivi par les chiites. Donc en fait, l'Iran incarne une forme de théocratie. Et l'État islamique se réalise en tant que théocratie, si vous voulez, avec un clerc à la tête de l'État. Dans le cas saoudien, en fait, on a un cas assez différent, puisque l'Arabie saoudite n'est pas du tout une théocratie, c'est une monarchie traditionnelle, dans laquelle il y a une séparation assez nette entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Les El Saoud ne sont pas des savants religieux, ils ne prétendent pas l'être, ils ne s'investissent pas d'ailleurs, les princes El Saoud, dans la carrière cléricale. Les religieux, et notamment les membres de la famille des Al El Sheikh, qui sont les descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc le prêcheur, le savant religieux qui, au XVIIIe siècle, a formulé la doctrine qu'on appelle aujourd'hui le wahhabisme, c'est-à-dire une espèce d'ultra-orthodoxie sunnite qui insiste énormément sur l'unicité de Dieu et qui considère que les chiites ne respectent pas ce principe puisqu'ils vénèrent en fait les imams. Et donc, ils estiment que les chiites pratiquent une forme d'idolâtrie. Donc, les membres de la famille les Al El-Sheikh et puis d'autres familles également, eux, se concentrent sur le pouvoir religieux. Et quand il y a conflit ou désaccord entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, eh bien, en réalité, c'est toujours le pouvoir politique qui prévaut. Donc, une monarchie de type traditionnel parce qu'en fait, le politique dirige au nom du religieux, mais ne laisse pas, si vous voulez, les experts religieux, les professionnels du religieux exercer directement le pouvoir politique, comme c'est le cas en Iran.
Alors, il y a des chiites aussi en Irak, dans le sud, mais vous l'expliquez, ils ne sont pas pour autant aux ordres de Téhéran.
Non. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la révolution de 1979 en Iran, il y a eu une vague d'enthousiasme pour la révolution iranienne, pour l'ayatollah Khomeini, aussi bien chez les sunnites que chez les chiites, d'ailleurs. Au départ, c'était vraiment transconfessionnel. Et donc, l'idée qu'il fallait établir des républiques islamiques était très consensuelle dans la mouvance islamiste, notamment la mouvance islamiste chiite. Mais on va dire assez rapidement, dès la fin des années 80, des scissions sont apparues au sein de l'islamisme chiite avec certains courants qui se sont montrés de plus en plus critiques vis-à-vis de l'expérience politique iranienne, dénonçant les dérives autoritaires, l'absence de pluralisme politique et notamment certains clercs dénonçant le fait que d'avoir mis des clercs au pouvoir, si vous voulez, dans des positions de gouvernement, avait nui à la réputation de l'institution religieuse. Parce que quand on fait de la politique, on est obligé de se salir les mains, on est obligé de mentir. Et donc, au fond, on ne respecte pas l'éthique qui doit être celle des savants religieux. Et notamment, à Najaf, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'appelle Ali Sistani, qui est la principale autorité religieuse dans le monde chiite aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une énorme influence en Irak, mais bien au-delà, considère qu'il ne faut pas que les clercs exercent des fonctions de gouvernement et qu'il faut qu'il y ait une séparation assez nette entre la sphère du gouvernement et la sphère de l'institution religieuse. Ça ne veut pas dire qu'il pense pas que les clercs doivent se mêler de politique. Lui, il se mêle de politique beaucoup, mais la ligne rouge, c'est on ne s'investit pas directement dans le gouvernement de l'État.
Oui, parce que aujourd'hui, pour le coup, le gouvernement irakien est un gouvernement chiite. Les choses ont changé.
C'est un gouvernement qui est dominé par des chiites, dont la plupart sont de sensibilité islamiste, on pourrait dire. Il y a certains clercs, mais les clercs qui sont dans ce gouvernement ne suivent pas la ligne de l'ayatollah Sistani.
Une semaine d'actualité.
On se dirige maintenant vers l'Afrique pour continuer notre retour sur l'actualité de la semaine. D'abord en RDC, où lundi matin, la MONUSCO a rendu hommage à Beni, à ses 14 casques bleus tanzaniens tués dans l'attaque qui avait visé, quelques jours auparavant, la base de Semuliki, dans ce secteur baptisé Triangle de la Mort et d'où les civils sont forcés de fuir. Florence Maurice a rencontré ses déplacés.
C'est un lundi que Miyiloussia, 40 ans, a fui la dernière fois avec ses 6 enfants. On était au champ quand ils ont attaqué. On n'a même pas pu rentrer à la maison. Les ennemis étaient habillés bizarrement, avec des tenues militaires déchirées. Ils pourchassaient la population. Alors on a fui, on est parti comme ça, sans rien, habillés comme tu nous vois là.
Des massacres en tout genre, cette maman en a connu, mais ce qui l'a surprise cette fois, c'est l'armement des assaillants.
En 2016, ils utilisaient des armes légères. Mais maintenant, ce sont des roquettes. Ils viennent dans les villages avec des armes lourdes pour tuer la population.
et ils sont plus nombreux qu'avant. Moi, je crois que ce ne sont pas les mêmes rebelles qu'autrefois.
L'impressionnante attaque de Simuliki renforce ce sentiment. Zawadi Nema, 22 ans, a fui en septembre, elle aussi.
Quand j'ai entendu parler de l'attaque sur la base, j'ai pensé, ah, cette fois, je ne pourrai pas rentrer chez moi et je vais rester ici à souffrir.
Ces familles ont trouvé refuge dans ce qui était autrefois un institut biblique. Il accueillait il y a 4 ans encore des pasteurs de toute la région, mais il est aujourd'hui déserté à cause de l'insécurité.
Un reportage de Florence Maurice. La RDC toujours et le verdict dans le procès de Kavumu dans l'Est, un verdict historique selon plusieurs ONG. 11 des 20 accusés ont écopé de la perpétuité, reconnus coupables de crimes contre l'humanité pour viol et meurtre. Entre 2013 et 2016, une quarantaine d'enfants âgés de 8 mois à 12 ans avaient été violés par ces miliciens. Jeanne Richard.
À l'énoncé du verdict de la cour militaire, c'est le soulagement pour les victimes et leurs familles, comme en témoigne maître Charles Koubaka Sikoura, le porte-parole des avocats des parties civiles.
Un sentiment de satisfaction parce que les enfants ont enfin obtenu justice.
En réparation, les juges ont ordonné que leur soient versés 5 000 $ et 15 000 $ aux familles dont les enfants sont morts. Mais le verdict était également très attendu car les crimes sexuels restent le plus souvent impunis. Et fait rare, un élu, le député provincial Frédéric Batoumiké, a été condamné.
C'est le prévenu principal. Et bien à partir de cet arrêt, tout le monde comprend finalement que tout le monde peut être jugé, tout le monde peut être condamné.
Mais maître Marcelin, l'un des avocats du député Frédéric Batoumiké, estime que le dossier est monté de toutes pièces.
Nous sommes en train d'assister à une parodie de justice. C'est une décision politique par le gouvernement national comme provincial. En tout cas, nous n'attendions rien de ces jugements, nous n'attendions rien de ces procès, parce que c'est un procès monté en vue de règlement des comptes contre notre client honorable Batoumiké.
Et il dispose maintenant de 5 jours pour faire appel.
Et l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a estimé que cette décision marquait une étape importante pour la justice et le respect de l'état de droit en RDC. La zone sahélienne avait rendez-vous ce mercredi à la Selle Saint-Cloud, en banlieue parisienne. Les chefs d'État du Mali, de la Mauritanie, du Burkina, du Niger et du Tchad avaient été invités par le président français Emmanuel Macron pour accélérer la mobilisation internationale autour du G5 Sahel, cette force conjointe de lutte contre le terrorisme dans la région. Les carnets de chèques étaient de sortie, mais est-ce que cela suffira, Gaël Lalex?
100 millions d'euros de la part de l'Arabie Saoudite, 60 des États-Unis, 50 de l'Union Européenne, 28 des Émirats Arabes Unis, 10 millions de chaque pays sahélien, 8 de la part de la France et enfin 5 de la part des Pays-Bas. Le compte est bon, la force possède désormais plus que les 250 millions nécessaires selon Paris à la première année d'opération. Oui, mais après, la question reste entière. Un membre de la délégation malienne nous confiait tout à l'heure qu'une force conjointe de cette ampleur a besoin de visibilité dans le temps et donc de financement pérenne. Lors de la conférence de presse, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, a rappelé qu'il ne désespérait pas que le G5 fasse l'objet d'une nouvelle résolution des Nations Unies sous le chapitre 7 qui régit les règles d'engagement des opérations de maintien de la paix. Un processus au sein de l'ONU assurerait ainsi un financement sur plusieurs années. D'ici là, le prochain grand rendez-vous aura lieu à Bruxelles le 23 février. Une conférence de donateurs sera organisée pour récolter d'autres fonds, mais là encore, ces engagements risquent d'être limités dans le temps.
Laurence Ware sur ce G5 Sahel.
Oui, alors juste un petit mot sur l'investissement saoudien et émirati qui témoigne vraiment de la volonté de ces deux pays de
100 millions d'euros quand même.
Voilà, de s'investir dans un petit peu partout et puis de développer leur zone d'influence, hein. Il faut souligner que ces deux pays qui sont sous la coupe de deux jeunes leaders politiques, Mohamed bin Salman pour l'Arabie Saoudite, Mohamed bin Zayed pour les Émirats, le premier étant largement les mules du second, si vous voulez. Et donc voilà, c'est une confirmation de l'affirmation sur la scène internationale de ces deux pays.
On va revenir à votre livre, Laurence Loer. On parlait des moments de rapprochement entre chiites et sunnites. Le plus récent, le plus connu de l'histoire récente, c'est celui de la première guerre en Irak au début des années 90.
Oui, alors bon, l'invasion du Koweït marque en fait le début du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et puis d'une manière générale les monarchies du Golfe et l'Iran. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà en Iran même, on a eu un changement, un renouvellement des élites au pouvoir avec la montée en puissance de ceux qu'on appelait les pragmatiques, avec notamment Rafsanjani à l'époque, et qui milite en fait pour un changement d'approche de la République islamique vis-à-vis de son entourage, de la communauté internationale. Donc il souhaite une normalisation et que l'Iran rentre dans le concert des nations. Pour les monarchies du Golfe, ils réalisent que c'est plus l'Iran l'ennemi, c'est l'Irak qu'ils avaient soutenu dans la guerre contre l'Iran dans les années 1980. Donc il y a un réalignement des alliances, et donc dans ce contexte difficile, il y a eu en effet un rapprochement continu tout au long des années 1990 et un rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en 94. Celle-ci avait été rompue à la suite d'émeutes au pèlerinage de la Mecque en 96. Et puis de nombreux échanges, des lignes d'aviation directes entre les zones de la province orientale saoudienne qui sont peuplées majoritairement de chiites, et puis des sites comme Mashhad par exemple, qui est un grand site de pèlerinage chiite. Donc beaucoup d'échanges.
Et par contre, un retour des tensions à partir de la deuxième guerre en Irak au début des années 2000.
Oui, tout à fait. Alors, donc 2003, donc l'arrivée des chiites au pouvoir à Bagdad est quand même un traumatisme et un cri d'alarme pour tous les pays de la région qui sont dirigés par des sunnites, mais notamment les monarchies du Golfe, qui en plus sont accusés, les Saoudiens en particulier, d'être responsables des attaques du 11 septembre. Et donc, le changement, il y a un changement d'image à cette époque, un changement de perception parmi les Occidentaux qui voyaient, grosso modo, depuis les années 80, pensaient que c'était l'islam chiite qui était révolutionnaire, fanatique et dangereux, si vous voulez, et qui découvre ce qu'est le wahhabisme et qui, au fond, change un petit peu leur fusil d'épaule. Je crois que ce qui est important de souligner, c'est que si 2003 a inquiété, c'est vraiment à partir de 2011 qu'on voit une très forte dégradation des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. 2011, pourquoi? C'est les printemps arabes et c'est le soulèvement à Bahreïn, donc qui est un tout petit pays très très proche de l'Arabie Saoudite, où la majorité est chiite et où il y a une opposition islamiste chiite très très bien structurée et organisée, qui était derrière le soulèvement de 2011. Et une extension de ces manifestations bahreïnies à la province orientale saoudienne, peuplée majoritairement de chiites. Et donc, en fait, les seuls manifestations populaires liées au printemps arabe qu'il y a eu en Arabie Saoudite ont été concentrées dans la population chiite. Et c'est vraiment là qu'il y a un basculement, puisque pour les Saoudiens, c'est au fond un symptôme que l'influence iranienne s'étend même au-delà de l'Irak, au-delà de la Syrie, au-delà du Liban, jusque sur le territoire même saoudien.
Laurence Pellet, on termine notre tour de l'actualité africaine avec le Burundi, dont le gouvernement ce lundi appelait la population à contribuer au financement des élections de 2020. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié, au micro de notre correspondant Esdras Ndigoumana.
Nous avons déjà dit que la contribution doit se faire de manière volontariste et que ce n'est pas un impôt de capitation ni un effort de guerre. Il y a les indigents qui ne vont pas donner la contribution parce qu'ils ne le peuvent pas. Sinon, pour le reste, nous sommes convaincus que tout le monde va contribuer. C'est la population elle-même qui l'a demandé. En tout cas, pour ceux qui le peuvent, nous sommes convaincus qu'ils vont contribuer. Mais si par hasard, il y a quelqu'un qui veut faire exception, je crois qu'il pourrait l'exprimer officiellement et rédiger une correspondance qui nous le demande. Et je crois que ça serait un cas marginal à étudier cas par.
Et voici la réaction de Gabriel Rufiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi.
Comme le budget élection est déjà prévu dans la loi budgétaire, pour nous, c'est de la raquette. C'est le gouvernement qui est en train de raqueter. Ça se crée, c'est pour financer le parti, ce ne sont pas pour les élections. Et là, son montant est en train d'être demandé à une population qui vit dans une pauvreté extrême.
Une semaine d'actualité.
Laurence Louert, dans la conclusion de votre livre « Sunnite et chiite, histoire politique d'une discorde », vous dites que, comme beaucoup d'autres États, les États-nations peuplés majoritairement de musulmans semblent surtout avoir eu du mal à penser et à gérer la diversité en général, et qu'en fait cette question du rapport sunnite-chiite n'est qu'en fait un aspect de la problématique de la citoyenneté.
Oui, parce que c'est au fond, on peut lire les relations entre sunnites et chiites très largement comme un rapport de entre majorité et minorité. Et partout, on va dire, c'est pratiquement universel, mais dans cette relation compliquée, au fond, les minorités sont toujours en position subalterne, subordonnée. Elles sont marginalisées, elles sont discriminées, elles ont toutes les peines du monde à faire accepter à la majorité leur droit à la différence. Et les États... peuplés de musulmans ne font pas du tout exception à la règle. Hein. Je crois que le cas le plus symptomatique, c'est sans doute celui de l'Irak, qui n'était pas un État religieux à la base, hein, mais dont les élites politiques ont, depuis le départ, été recrutées au sein de la minorité arabe pour des raisons politiques et historiques très complexes, et qui ont toujours vu les chiites, qui étaient pourtant, alors là, majoritaires, mais comme une minorité, hein, parce qu'ils représentaient les minoritaires au sein de la population musulmane, si vous voulez, et qui, en outre, les ont toujours considérés comme une cinquième colonne de l'Iran, hein, et des ambitions expansionnistes de l'Iran. Et donc, cette difficulté, au fond, à penser le peuple irakien comme étant un peuple composé de différentes confessions, mais aussi de différentes ethnies, enfin, groupes ethno-nationaux, puisque, donc, voilà, les chiites, un certain nombre d'entre eux étaient d'origine iranienne. Il y a évidemment en Irak la question kurde, qui est encore une autre dimension. Et donc, les élites sunnites arabes considéraient que les Kurdes n'étaient pas des Irakiens, parce qu'ils n'étaient pas des Arabes, tout simplement.
Merci Laurence Louer. Je rappelle le titre de votre livre, Sunnites et chiites, histoire politique d'une discorde, un livre passionnant et très documenté, édité au Seuil. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Demain, vous retrouvez Pierre-Edouard Deldic dans Idée. Ce sera à 15h10 temps universel pour ceux qui nous écoutent en Afrique, 17h10 heure française si vous nous suivez à Paris et dans le reste du monde. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, le journal.